Nous y sommes. Bonjour, bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère et aux auditeurs fidèles des carnets hebdomadaires de Comaguerre. Voilà. On salue le retour à la technique de Roselyne et je salue Habib qui est à mes côtés. Et puis je vois apparaître dans la cabine technique aussi Sidi et puis notre invité de la semaine dernière, Clélie, qui est là aussi et qu'on attend dans le studio si elle a envie. Voilà. Bienvenue Clélie. Et on va attaquer l'émission pour parler un peu de la politique de la République française et de ses chefs.
Ouais.
Je mets même le pluriel. Et en fait, il y a des moments où j'hésite à mettre le pluriel parce qu'on est arrivé à un tel niveau de concentration du pouvoir qu'on se demande si le mot « république », ça veut dire la chose publique, est encore viable. Bon. Et je vais commencer par des histoires de réformes constitutionnelles. Alors vous savez qu'hier, donc, le Parlement réuni en Congrès, c'est-à-dire les deux chambres, Sénat et Assemblée nationale réunies, ont voté à une large majorité pour la constitutionnalisation du droit à l'avortement. J'insiste bien sur le terme, il s'agit du droit à l'avortement. Bon. Et puis, donc ça a été salué, c'est passé assez facilement. La gauche a voté massivement, voire quasi unanimement pour. La droite et l'extrême droite se sont un petit peu divisées, mais on peut noter que aussi bien les élus du Rassemblement national que ceux des Républicains ont voté quand même majoritairement pour cette constitutionnalisation. Donc on peut considérer que du point de vue du gouvernement et du président, c'est un succès politique. Alors c'est un succès politique qui s'appuie sur une réalité sociale qu'on connaît depuis longtemps, qui est la suite de la loi Veil de 1974, beaucoup de choses s'étaient passées et puis qu'on voyait venir sur la planète un mouvement contraire contre le droit à l'avortement. Ça, c'est lié à des questions démographiques et tout. Puis on a suivi l'histoire de la Cour suprême des États-Unis qui arrive à elle toute seule à faire la loi. C'est un pays un peu particulier puisque 9 magistrats peuvent à un moment dire la loi pour 300 millions de personnes, c'est nous qui décidons. Ce qui est un peu discutable et ce qui met de côté à la fois l'administration, comme on dit, c'est-à-dire le président et ses ministres, et le Parlement, le Congrès des États-Unis. Ça, c'est une particularité des États-Unis sur laquelle on reviendra peut-être au moment des élections. Mais vous allez tellement en entendre parler dans des circonstances et avec des précisions qui ne nous touchent pas très directement qu'on ne va pas beaucoup rajouter d'éléments à l'analyse de la situation aux États-Unis. Donc j'en viens à cette réforme constitutionnelle. Donc j'ai dit l'essentiel, il en sera beaucoup question dans la quantité d'émissions. Mais pour dire que et c'est là que je mets un petit bémol, c'est-à-dire que cette réussite politique de l'équipe Attal-Macron, c'est une réussite, ils ont tenté un coup, c'est passé facilement, donc il n'y a pas eu de problème, et ça satisfait une large partie de l'opinion publique, en particulier féminine, mais pas que. Bon. Ce qu'il y a derrière, c'est tout autre chose. Parce qu'en fait, on est rentré dans une période, après ce succès initial, c'est une espèce de coup d'envoi, un coup d'envoi presque glorieux pour la Macronie, puisque personne ne l'a fait et qu'on nous dit « bon, veux-tu en voilà que la France est le seul pays du monde pour l'instant à avoir constitutionnalisé ce droit ». Heureusement, il y a d'autres pays où il est exercé et où il n'est pas remis en cause, comme ça a été le cas à travers l'arrêt de la Cour suprême aux États-Unis. Donc, effectivement, on a habillé ça très brillamment pour dire « c'est un succès de la Macronie ». Qu'est-ce que ça cache? Un succès de la Macronie, ça permet à la tête de ce monsieur d'enfler encore plus qu'elle ne l'est. C'est-à-dire qu'il va maintenant faire passer, ou tenter de faire passer, un certain nombre de réformes de la Constitution qui sont beaucoup, beaucoup plus inquiétantes.
Ouais.
La première qui vient, c'est la réforme de la procédure électorale pour l'autonomisation et l'indépendance de la Kanaky-Nouvelle-Calédonie. Vous savez, je ne reviens pas à toute cette histoire longue. Vous savez quand même que l'ONU a décidé, peu de temps après la constitution de l'ONU, de créer un comité de la décolonisation. Et l'ONU a fait une liste qui est limitative de pays où effectivement un pays étranger, un colonisateur, est venu, a pris la place et a pris le gouvernement à la place des gens qui étaient là depuis des milliers d'années et les a marginalisés. Alors marginalisés en droit, en économie, socialement, etc. Bon. Et dans cette liste qui est limitative et qui a été bien analysée, j'en dis quelques mots, la Nouvelle-Calédonie a figuré dès le début. Ce qui veut dire, et là l'ONU est cohérente avec au moins ses intentions, il est dit que ces pays-là devront accéder à l'indépendance, hein, puisqu'ils ont été colonisés, donc le colonisateur doit les laisser vivre tranquilles entre eux. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne laisserait pas vivre sur place des gens qui sont là aussi, mais ça veut dire ce pays est le vôtre, hein, même raisonnement qu'on peut tenir pour la Palestine, ce pays est le vôtre, vous avez le droit d'y être et vous avez le droit d'être indépendant. Ça, ça s'appelle le droit à l'autodétermination. Bien sûr. L'ONU ne va pas plus loin. L'ONU dit le droit à l'autodétermination. C'est un langage qui est connu, c'est un terme qui est codé, classifié et tout. Et donc le droit à l'autodétermination, ça s'exprime par des votes. Quand un pays dit « je veux décider de mon avenir », il va voter à la majorité pour son avenir. Alors dans le cas de la Nouvelle-Calédonie, c'est un petit peu compliqué, puisque entre le moment où l'ONU a classé la Nouvelle-Calédonie dans les territoires à décoloniser et le moment où effectivement la République française, après avoir beaucoup, beaucoup traîné les pieds, a décidé d'organiser 3 référendums pour permettre aux Kanaks de s'exprimer sur leur avenir, il s'est passé beaucoup de temps et il s'est passé un temps pendant lequel, en particulier, la France coloniale a pris toute une série de mesures permettant à des métropolitains, à des Européens, à des non-Kanaks, disons, de venir s'installer dans des conditions extrêmement favorables. Je cite par exemple le cas de retraite de fonctionnaires qui était majoré mais triplé si le fonctionnaire qui prenait sa retraite allait s'installer en Nouvelle-Calédonie. Alors ça a incité un certain nombre de gens à y aller, c'est joli, il y a de beaux paysages, on peut faire de la voile, c'est un très très joli territoire. Bon, et on est arrivé à la situation suivante qui est très simple, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur les habitants de la Nouvelle-Calédonie, les Kanaks sont minoritaires. Ils représentent en gros 45% de la population.
Il y a les Caldoches.
Voilà, les autres, on les appelle les Caldoches. Alors, dans ces Caldoches, il y en a qui sont là depuis longtemps, qui étaient dans les premiers colonisateurs. Ouais. Et puis, il y en a qui sont arrivés dans le cadre de mesures comme celles que je vous explicitais pour faire travailler ici, où ils ont été envoyés. Qui est salarié de la BNP, qui est salarié de Total par les entreprises françaises qui, puisqu'on est en terre coloniale, ont la maîtrise de l'économie du pays, à l'exception de quelques activités, en particulier l'activité de traitement du nickel. Bon. Ceci dit, on est arrivé donc à ces 3 référendums qui ont eu lieu et qui ont marqué une projection très très nette du vote en faveur de l'autodétermination et de l'indépendance, puisque dans le 3e des votes, qui s'est tenu je crois en 2022 si je ne me trompe pas, le vote pour était de 44% en faveur donc de l'autodétermination, hein, ce qui était donc un progrès par rapport aux 2 votes précédents. Et puis à la suite de ça, alors ce vote a été arraché, 22, c'est ça, puisqu'on était, je sais qu'on était juste à la sortie du Covid et que les Kanaks ont passé leur temps à dire, mais dans les circonstances qui sont celles qui viennent de précéder, on n'a même pas eu le temps de faire campagne, on n'a même pas eu le temps d'aller dans les villages et tout, vous nous faites voter à une date.
Ils avaient demandé le report d'ailleurs.
Voilà, ils avaient demandé le report qu'on leur a refusé. Résultat, donc la participation est tombée à des niveaux assez faibles, mais malgré tout, le vote en faveur de l'autodétermination a progressé. Et donc, du coup, la République française coloniale se trouve face à une situation délicate, c'est-à-dire elle aimerait bien que, une bonne fois pour toutes, les Kanaks soient battus, ben, c'est très clair. Hein. Il y a une partie du nickel qui est une richesse de taille mondiale. Ah. Il y a les intérêts des entreprises françaises qui sont installées sur le territoire calédonien. Et puis, il y a cette population caldoche de longue date, plus récente dans la colonisation européenne, mais qui se trouve très très bien là et qui aimerait bien rester avec ses privilèges, parce que le fait d'être un colonisateur, ça donne des privilèges, ça donne l'accès à certains services, ça donne l'accès à certains petites facilités dans la vie de tous les jours, à des niveaux de salaire qui sont évidemment plus élevés que ceux des Kanaks, qui pour une bonne part vivent à la campagne, et donc on est des salaires plutôt des revenus d'agriculteurs, de paysans, tout. Bon, tout ça, c'est la colonie telle qu'on la connaît sous toutes les latitudes. Qu'est-ce que veut faire la France? Elle veut essayer d'en sortir à sa façon, c'est-à-dire ne rien perdre, garder les eaux territoriales et la zone économique exclusive autour de la Nouvelle-Calédonie, garder la maîtrise sur une partie de la production du nickel et garder ce territoire pour être un acteur de la zone Indo-Pacifique. Voilà tout le contexte qu'il y a derrière, c'est-à-dire dans le cadre de la lutte d'influence entre les États-Unis et la Chine dans l'océan Pacifique. Là, il y a un camp pro-américain qui a été constitué petit à petit, mais on connaît sa géométrie. Donc ce camp américain, le camp de l'Indo-Pacifique, c'est l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon et l'Inde qui est entre deux eaux. J'allais dire l'Inde, c'est la Turquie de l'Asie. On ne sait jamais de quel côté ils vont tomber. Le problème, c'est qu'ils sont tellement gros et lourds, si j'ose dire, que le côté où ils tombent souffre. Alors je pense que ce qu'on voit de la ligne actuelle du gouvernement indien, c'est plutôt une espèce de chemin de crête entre ne tomber ni d'un côté ni de l'autre et montrer qu'on pèse lourd sur la balance mondiale. Ce qui est la réalité avec 1,4 milliard d'habitants et une économie en croissance. Alors plus en croissance que celle de la Chine, mais il y a beaucoup de retard à rattraper. L'Inde ne sera pas avant un certain temps au niveau de l'économie de la Chine. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Alors, qu'est-ce que M. Darmanin est en train de nous mijoter avec sa réforme constitutionnelle? Eh bien, simplement, c'est un classique du traficotage électoral, modifier le nombre d'électeurs. Comment on fait pour modifier le nombre d'électeurs? Ben, les Kanaks, ils sont là, on les connaît. Il n'y a pas eu d'explosion démographique chez les Kanaks. Donc, il s'agit de donner le droit de vote à toute une série d'Européens ou de Français particulièrement qui sont arrivés il y a très peu de temps. Et donc, à ce moment-là, au lieu que les Kanaks soient 44%, ils vont peut-être tomber à 30 ou 35 et tout. Et là, le dernier référendum, s'il y en avait un, serait catastrophique pour eux. C'est ça que M. Darmanin est en train de mijoter. Et la prochaine réforme constitutionnelle qui va être présentée au Congrès, je pense, on l'annonce le mois d'avril, c'est ça. C'est-à-dire, c'est une horreur coloniale. Et puis, c'est un espèce de... Il tire la langue à l'ONU et le comité de la décolonisation... On s'en fiche, ça ne nous intéresse pas. Ce que pensent les Kanaks, ça ne nous intéresse pas non plus. Hein. On veut garder une colonie française. Bon, c'est la politique de Macron, il n'y a pas de surprise. Mais la faire passer en réforme constitutionnelle, il y a eu un chiffre qui a circulé, c'est le FLNKS qui l'a mis en circulation. Il a dit le nombre d'électeurs que Darmanin veut ajouter à la population donc européenne, ça correspond au fait que si en France, dans les élections les prochaines, on ajoutait 7 millions d'électeurs de plus, on ferait effectivement changer le résultat. Bon, c'est ça l'opération. Alors, on ne va pas beaucoup nous en parler, c'est loin, la Nouvelle-Calédonie et tout. C'est une horreur qui est en train de se préparer. Bon. Alors, souhaitons que les Kanaks se défendent. Rappelons quand même, et ça c'est très important, parce qu'il y a la Kanaky, enfin la Nouvelle-Calédonie, n'est pas un département d'outre-mer, c'est un territoire avec un statut spécial, et il y a une espèce de gouvernement qui a été mis en place, alors qui gouverne les affaires courantes et locales, qui n'a pas d'accès à la politique extérieure ou à la défense nationale, mais ce gouvernement est aujourd'hui, alors il y a un équilibre qui est favorable aux Kanaks, c'est-à-dire que dans ce gouvernement et dans cette chambre qui est le Congrès calédonien aujourd'hui, les Kanaks ont une voix de plus que les Européens. Et donc, c'est ce qui leur permet à eux de dire, voilà, on ne change pas de position, et c'est ce qui leur permet à eux aussi d'aller à New York chaque fois que nécessaire pour dire à l'ONU, au comité de décolonisation, n'oubliez pas que nous devons être décolonisés. Et donc, ils mettent le poids de l'ONU face au poids de la République française et de ses visées coloniales. Mais si effectivement le Congrès votait l'horreur qu'est en train de préparer Darmanin, il y aurait un vrai problème et il faudrait que l'ONU sanctionne, c'est-à-dire tricherie sur le corps électoral. Alors, est-ce que l'ONU le ferait? Je ne sais pas, on n'en est pas encore là. On peut souhaiter qu'elle le fasse puisque l'ONU verrait bien, et je crois que les circonstances politiques sont quand même un peu favorables à ce que l'ONU se laisse un peu moins marcher sur les pieds qu'elle ne s'est laissée marcher sur les pieds jusqu'à présent, pour que l'ONU dise non, c'est pas possible, on n'accepte pas. Et donc, qu'il y ait un conflit entre l'ONU et les intérêts coloniaux de la République française. Ça, c'est le premier référendum Pas référendum, surtout pas un référendum, je dis, c'est un lapsus fâcheux. Macron évitera absolument tout référendum sur toute question. Ça lui va très bien, le Congrès et la réunion des deux assemblées, parce que le référendum, ça voudrait dire que le référendum se ferait sur la personne de Macron, quel que soit le sujet, et qu'il serait battu. Donc, il nous fera pas ce plaisir-là, j'allais dire.
C'est sûr.
Bon, ça, c'est le premier abcès. Le deuxième abcès, il est un peu du même tonneau, c'est-à-dire que les discussions qui ont été menées entre Darmanin et les leaders des indépendantistes corses et les gens qui sont à la tête de la collectivité territoriale corse sont en train d'aller vers un accord au terme duquel il y aurait une mise en cause du droit du sol à la française. C'est-à-dire que, effectivement, les Corses, ces élus corses, pour ce qu'ils représentent, s'ils représentent bien.
Les nationalistes.
Oui, les nationalistes. Seraient favorisés par le fait que n'importe qui, des gens qui ont des ascendances corses lointaines et tout, et qui un beau jour s'installent, pourraient redevenir électeurs en Corse. Et donc, ce qu'ils veulent faire, c'est limiter ce droit du sol, de telle façon que seuls ceux, les Corses qui sont aujourd'hui en Corse, et qui y sont depuis longtemps et qui n'ont pas bougé, gardent le droit de vote et que les autres ne l'aient pas. Bon. Ça, c'est une atteinte au principe du droit du sol, qui est une des caractéristiques de la République française. Et ça, c'est la deuxième horreur que Darmanin est en train de nous préparer. Ça fait deux, donc, qui sont pour le printemps qui vient. Si jamais... Alors, je vais beaucoup plus loin, parce que je suis plus inquiet que je n'en ai l'air. Si jamais il arrivait à faire passer au Congrès ces deux réformes, une qui atteint au droit du sol et l'autre qui viole les résolutions de l'ONU sur la décolonisation... On peut imaginer et on peut craindre qu'à ce moment-là, Macron tente le risque d'une modification de la Constitution pour l'élection présidentielle. Et je pense que c'est ça qui est derrière. C'est ça qui est derrière. Et ça, ça mérite qu'on soit très, très attentif sur ce qui se passe. Donc il a inauguré la période de ses réformes constitutionnelles par le succès sur l'IVG. C'était facile, il l'a fait. Hein. Mais derrière, il y a des tas d'horreurs en préparation. Donc, ayons les yeux ouverts, et tout ça dans le contexte de la préparation des élections européennes. Voilà. C'était cette petite introduction anti-néocoloniale. Il fallait la faire. Ensuite, je vais changer de pays, mais on est en plein néocolonialisme aussi. Vous allez voir ce qui se passe en Haïti. Alors, en Haïti, alors on ne suit pas ça au jour le jour. On sait que la situation est difficile. On sait que le gouvernement qui est là ne gouverne pas, puisqu'en fait, le pouvoir est entre les mains d'un certain nombre de bandes et que le gouvernement est impuissant. On sait que la population est malheureuse. On sait beaucoup, beaucoup de choses. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il s'est réuni, donc, le Conseil de sécurité, comme il le fait régulièrement, et il a voté une résolution. C'était à l'automne de 2023. Qui prévoit la mise en place d'une mission multilatérale de sécurité à Haïti. Alors, qu'est-ce que c'est ça ? Alors, ce n'est pas les casques bleus, ce n'est pas une mission classique de l'ONU, puis c'est un nom particulier, c'est la mission multilatérale de sécurité de Haïti. Ah ! Alors, bon, ça veut dire quoi ? Alors, ça veut dire qu'à la suite de cette résolution, où chacun a compris qu'effectivement la situation haïtienne était extrêmement instable et fragile, en particulier pour le Premier ministre qui est là et à qui personne pratiquement n'obéit, il a été décidé qu'il y aurait une force destinée à la stabilisation du pays, une force de police, disons, pour faire simple, qui serait constituée en dehors des cadres habituels de l'ONU. D'où cette résolution particulière. On n'est pas du tout dans le cas classique des casques bleus. Cette résolution a été approuvée par le Conseil de sécurité à sa quasi-totalité avec deux abstentions, celle de la Russie et celle de la Chine. Alors pourquoi deux abstentions ? Alors, bon, ils n'ont pas voulu, ils auraient pu, parce qu'ils voient très bien la situation en Haïti, ils savent très bien que de facto Haïti est une espèce de colonie des États-Unis où les États-Unis font absolument ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas voulu s'y opposer parce que je pense qu'ils n'ont pas de moyens concret et pratique de peser sur la situation haïtienne. Il n'y a pas de parti politique organisé, il n'y a pas de gens qui vont les voir. Le délabrement politique de la société haïtienne est tel que émettre un veto, c'était se faire plaisir sur le principe, mais ça ne débouchait sur aucun acte suivi concret. Bon. C'est mon interprétation. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que ça a été voté, la création de cette mission multinationale, et qu'il a fallu trouver des gens pour la remplir, donc qu'ils soient des gens étrangers à Haïti, qui soient là pour faire régner l'ordre, ou le retour à l'ordre. qui est le responsable désormais de cette mission. C'est le Kenya. Alors le Kenya, présidé par M. Ruto, le Kenya qui est un des États les plus pro-israéliens de toute l'Union africaine, il faut le savoir, qui est un État chéri de M. Charles III, monarque depuis pas longtemps, qui est une quasi-colonie britannique, bien qu'on fasse comme si ça ne l'était pas. Bon, ce Kenya qui a un accord de libre-échange avec l'Union européenne, qui est un des rares pays d'Afrique à avoir, j'insiste, le Kenya est un pays dangereux du point de vue du colonialisme. Bon. Et donc, ce Kenya prend la tête de cette force multinationale où d'autres États vont envoyer des contingents. Et donc, on a une espèce d'envoi de... Alors, tout ça se joue entre populations à peau noire. C'est-à-dire qu'il y a du désordre chez... Je simplifie et je vais être un peu caricatoire. Il y a du désordre chez les Blacks. On envoie des Blacks pour régler le désordre parce qu'on ne va pas s'en mêler.
Il n'y a pas eu un génocide par les Anglais au Kenya et
Si, en plus, oui. Du temps des Mao-Mao. Ouais. Tout à fait. Bon. Et donc, on connaît la musique. Hein, et donc, on connaît... Bon, c'est des affaires entre Blacks. Et ben, ils se débrouillent entre eux. On envoie des Blacks pour taper sur les autres, etc. Puis on en parle plus. Alors, ce qui est très, très révélateur, c'est que du jour où cet accord a été passé au Conseil de sécurité et donc où on a mis en place cette mission multinationale qui va se mettre en place réellement maintenant, les États-Unis ont fait un chèque de 200 millions de dollars. Parce que ce n'est pas le Kenya qui va payer, ce n'est pas la Jamaïque qui va aussi envoyer des policiers. Donc, les États-Unis disent « je paye une police ». Pour mes intérêts et pour mon compte, et on fait ça, régler ça, j'allais dire, entre nègres. Hein, je dis ça dans le vocabulaire du 19e siècle. Ouais. C'est le pire colonialisme qui existe. Hein. Entretuez-vous, moi je mets le feu à la marmite tout le temps, je pousse au génocide. Hein, voilà, je passe mon temps à ça. Bon, c'est ça la situation en Haïti. Et donc, l'engagement du Kenya dans cette force multinationale a été confirmé par une concrétisation, une vision. Donc du président Ruto directement à Port-au-Prince pour dire voilà, ça y est, on démarre, donc ça va démarrer dans les semaines qui viennent, donc on aura des flics noirs pour taper sur des émeutiers noirs. Ah, et les États-Unis paieront, hein, vous aurez droit au spectacle et on ne vous dira pas qui a payé, mais voilà, je vous le dis, 200 millions de dollars pour que les gens de Haïti se tapent sur la figure les uns sur les autres.
Oui, mais ce qui est honteux, c'est que le Kenya ait accepté ce rôle.
Ah oui, oui.
Oui.
Mais malheureusement, je disais, le parcours politique du Kenya dans l'Union africaine est tellement clair, hélas, avec ce nouveau président.
On les connaît bien.
On les connaît bien. C'est l'État africain le plus sioniste qui puisse exister. Ben voilà. Et donc, les États-Unis avaient besoin d'eux pour jouer ce rôle catastrophique. Alors, ceux qui ont échappé à ça, c'est les Brésiliens, et ils ont bien fait, parce qu'il faut savoir que quand il y a eu des missions casque bleu de l'ONU, menées en particulier par un contingent brésilien, ça a laissé de très, très, très mauvais souvenirs à la population haïtienne, puisque ces soldats brésiliens ont violé autant de femmes haïtiennes qu'ils ont pu. On a eu des affaires épouvantables, donc les Brésiliens éviteront de revenir se mêler de ces affaires-là. Encore que je ne suis pas exclu qu'ils aient quelques soldats, mais enfin, ils ne vont surtout pas se mettre à la tête de l'opération. Bon. Donc voilà, le Kenya fait la police pour le nom de Joe Biden sur le territoire d'Haïti. Qui se serait bien passé de ça, vu toutes les souffrances de ce pays? Je ne refais pas l'histoire, mais vous savez tout ce qu'on a fait à ce pauvre pays, parce qu'il a eu la mauvaise idée d'être le premier pays noir à se décoloniser de l'histoire du monde. Ouais. Ça fait 200 ans, ils payent toujours, ils n'ont jamais cessé de payer.
Et ils ont été divisés, même. Il y a deux...
Oui, alors on a coupé la République dominicaine de l'île, oui, tout à fait. Ah oui, Roselyne fait signe en disant « t'étais pas devant ton micro, vilain garçon ». Voilà. Bien, tout ça n'est pas très très réjouissant, mais il y a quand même des pays petits, pas très riches et tout, qui ont de la dignité. Je veux parler de la dignité du Nicaragua, qui a pris le parti, et il l'a fait, de déposer plainte contre l'Allemagne à la Cour internationale de justice. En disant, Eh bien, je fais référence à l'acte de la Cour internationale de justice, reconnaissant que tous les caractères d'un génocide sont réunis sur le territoire de Gaza en particulier, et donc je considère que l'Allemagne est complice de génocide, et donc conformément à l'article 2 ou 3, je ne sais plus, de la Convention internationale sur le génocide, je porte plainte contre l'Allemagne, moi, petit Nicaragua, je porte plainte contre l'Allemagne pour complicité de génocide. C'est très très intéressant parce que ça montre qu'il y a des petits pays comme ça qui ont souffert énormément de la colonisation et des activités des États-Unis. Je rappelle qu'un des plus gros dossiers jamais traités par la Cour internationale de justice était un dossier relatif au minage des ports nicaraguayens par la CIA du temps où le somosisme avait été balayé par les électeurs et donc du temps où les équipes d'Ortega étaient arrivées au pouvoir. Ça n'a jamais rien donné puisque la Cour internationale de justice a dit effectivement les États-Unis ont miné les ports nicaraguayens, donc ils ont interdit au Nicaragua de recevoir de la nourriture, des armes éventuelles de leurs alliés et tout. Ils ont beaucoup, beaucoup fait souffrir. Mais l'arrêt de la Cour internationale de justice est resté ce qu'il était, un document de papier très, très bien fait, 85 pages, je crois, enfin, très, très solide. Ils ont mis des années à trouver, enfin, à investiguer. La culpabilité des États-Unis est éclatante, manifeste, il n'y a pas de doute là-dessus. Et puis voilà, c'est resté comme ça. Et le Nicaragua a repris sa vie sans pouvoir bien s'alimenter. Alors, les mines ont été défaites petit à petit, mais pas par les États-Unis eux-mêmes. Je reste sur la Cour internationale de justice, donc, puisque j'en parlais, pour noter qu'il s'est passé des événements intéressants, en ce sens que, en même temps que la Cour internationale de justice attendait que l'échéance arrive pour dire si effectivement Israël avait pris des mesures pour ne pas continuer le génocide dont tous les caractères étaient établis, il s'est poursuivi toute une série d'audiences par rapport à la question de la colonisation de la Palestine. Alors c'est un dossier séparé, et là c'est un avis qui est demandé par l'Assemblée générale des Nations unies à la Cour internationale de justice, disant « Décrivez-nous cette colonisation ». Il se trouve que ça aurait pu passer relativement inaperçu, comme beaucoup d'autres avis de la Cour internationale de justice. Mais là, ce n'est pas passé inaperçu, vu les circonstances dans lesquelles ça se produit, la date à laquelle ça se produit. Et donc, il y a eu une quantité d'interventions, 50 à peu près d'interventions, de pays étrangers qui sont venus confirmer leur point de vue sur la colonisation réelle.
Parce qu'au départ, c'était un foyer juif.
Voilà. Alors, au donc, départ. Tout à fait, voilà. Oui, c'était pas un pays.
C'était le vrai colonialisme, voilà. C'est l'occupation.
Voilà, et donc on a ces 50 témoignages de différents États ont été d'abord structurés, argumentés et tout, et c'est la première fois que le fait que cette audience nouvelle et cet intérêt nouvel pour la Cour internationale de justice ont fait que les yeux se sont beaucoup plus braqués vers une séance à la Cour internationale de justice que ça n'était jamais arrivé dans l'histoire de cette Cour. Ces interventions, donc ces 50 et quelques interventions d'État venant confirmer à leur façon et avec des arguments, des documents, etc., qu'il y avait bien une pratique coloniale et qu'Israël est bien un pays colonialiste et que la Palestine est colonisée par un pays tiers, c'est tout à fait clair, ont été suivis. Alors, vous pouvez les voir sur la vidéo. Malheureusement, il y a deux langues officielles c'est l'anglais et le français à la Cour internationale de justice. Tous les arrêts, tous les avis sont rendus dans les deux langues. Il se trouve que là, la majorité de ceux que j'ai pu entendre, des témoignages des pays, des 50 pays participants, tout s'est passé en anglais pratiquement. Bon. Il y aura peut-être des sous-titrages, je ne sais pas. Mais ce qui est très très riche, c'est qu'on a eu pour la première fois, donc mis à la disposition d'un public mondial très très large, des expressions juridique fondée. Il s'agit d'avocats qui viennent ou de ministres de la justice qui viennent en disant voilà pourquoi il y a la colonisation, voilà des preuves, voilà des faits, etc. On n'a jamais eu un tel étalage, une telle accumulation de preuves des pratiques coloniales d'Israël qu'à cette occasion. Et ça, c'est très, très intéressant, même si ça n'a pas d'effet en droit immédiat, du point de vue politique. Tout ce qui a été dit, j'ai suivi en particulier, alors l'intervention, c'est assez étonnant, la Ligue arabe a mandaté un avocat britannique pour défendre sa position. Et il a fait un exposé de 25 minutes époustouflant, où tout y est. tout est dit clairement, simplement, avec les termes et tout. Il n'y a pas l'ombre d'un doute sur le fait que la Palestine a été volée de son territoire par le colonisateur avec la complicité des Britanniques. Alors, que ce fût un avocat britannique qui tint ce discours ne pouvait que me réjouir. Ça m'a réjoui, effectivement. Mmh. Et si vous pouvez le voir, alors regardez sur le site de la Cour internationale de justice. Vous pouvez lire. Alors, vous n'écouterez pas les 50. Il y en a un deuxième qui est le témoignage d'un avocat sud-africain qui explique bien aussi ce qui s'est passé et qui parle en connaissance de cause. Il faut savoir, et je fais une incise là-dedans, que Madame la ministre des Affaires étrangères d'Afrique du Sud, qui a porté plainte, on le sait, contre Israël, se plaint qu'aux États-Unis, on lui fait des misères. Elle a été menacée chez elle. Et puis elle dit, maintenant, il y a au Congrès des États-Unis, au Sénat et à la Chambre des représentants, des gens qui se mettent à dire du mal tout le temps de l'Afrique du Sud et qui vont alors dire du mal aux États-Unis, c'est pas grave, mais qui disent, on va retirer nos investissements, on va arrêter ceci, on va arrêter cela. Donc vous allez être punis parce que vous avez attaqué Israël. Bon, pas de surprise, hein, mais elle l'a dit. Elle l'a dit, et c'est bien qu'elle le dise, et surtout c'est bien qu'elle fasse du bruit autour de ces pratiques-là, qui ne sont pas nouvelles, mais qui méritent d'être bien connues. Dernière chose sur la Cour internationale de justice, donc c'est le déroulement plus long que prévu et unique en son genre de cette procédure d'avis sur la colonisation du sol palestinien qui a fait que l'échéance qui avait été fixée par la Cour internationale de justice le 26 janvier, qui avait dit à Israël « je vous donne un mois » pour faire mieux, pour changer de politique. Bon, manifestement, ça n'a rien donné. Ça a été un peu retardé dans le temps, puisque les dernières audiences pour l'avis sur la colonisation ont eu lieu ce vendredi. Donc la Cour internationale de justice va reprendre le cours de ses activités.
Ça a été plus violent.
Voilà. Donc ça, on en reparlera. Et en attendant, ben ça, évidemment, ça ouvre sur le sujet. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cadre du génocide ? Ben, le génocide a continué et puis il a pris de nouvelles formes, il y a de nouvelles initiatives, en particulier la plus visible. Et il a été très difficile de la masquer. C'est-à-dire qu'on parlait toujours des convois humanitaires qui arrivaient donc via le territoire égyptien à la frontière sud de la bande de Gaza, à la frontière à Rafah. Bon. Et ça, on savait, on l'avait vu, qu'il y avait un certain nombre d'activistes sionistes qui se tenaient en manifestation de type non-violent devant la frontière et qui ne laissaient pas passer les camions. Et donc, les camions attendaient et ils sont toujours pas passés. Bon. Ce qui s'est passé, donc, la deuxième opération, alors qui, elle, est discutable, je ne vais pas utiliser pour l'instant d'autres adjectifs, vous mettrez celui que vous voudrez dessus, c'est qu'il est rentré, donc c'était la semaine dernière, des camions d'un convoi humanitaire venant par le nord, donc venant du territoire d'Israël. Donc là, il n'y a pas de question d'Égypte et de frontières. Bon, ils sont rentrés, et donc la population qui reste à Gaza, la ville, donc dans le nord de la bande, évidemment, sachant qu'il allait avoir de quoi ne pas mourir de faim, s'est précipitée sur ces camions. Ce qui a permis à ce moment-là, à des snipers et à des chars d'assaut qui n'étaient pas très très loin comme par hasard, de tirer dans la foule. Bon. Donc on a compté 100, 120, 130 morts dans les gens qui venaient ne pas mourir de faim. Bon. Il n'y a aucun moyen pour Israël de dire que ce n'était pas prévu. On ne peut pas dire que c'est des gens qui ont eu peur, des soldats qui ont tiré et tout. On ne fait pas tirer un char avec des canons sur une foule qui est en train de s'amasser pour avoir du pain ou de la farine. Hein, c'est pas possible. Hein. Donc,
on a vu les images.
Oui, on a vu, voilà. Il n'y a pas...
En plus de ça, des témoignages des médecins étrangers.
Voilà. Il n'y a pas de doute. Hein. Alors, quand on en arrive là, c'est-à-dire qu'on n'a pas, non seulement, on ne veut pas arrêter le génocide, mais on trouve de nouvelles formes de le pratiquer. C'est-à-dire, je vous appâte avec de la farine, et quand vous êtes autour du sac de farine, je tire dans le tas. Voilà. Donc, on est dans l'horreur absolue. On est dans l'horreur absolue. Bon. Oui, vas-y, Roselyne.
J'ai aussi entendu parler de nourriture empoisonnée.
Oui.
C'est pas impossible.
Périmée, empoisonnée.
C'est pas impossible qu'ils aient vidé des vieux stocks, tout est possible, en disant, une fois qu'ils auront mangé ça, ils iront se coucher, et comme il n'y a plus d'hôpital, c'est terminé. Tout est possible. Tout est d'autant plus possible, parce que je replace ça dans le contexte israélien actuel, c'est qu'il y a eu, dans la semaine dernière, des élections municipales en Israël, dont on n'a pas beaucoup parlé. D'une part parce qu'elles ont eu des taux de fréquentation inhabituellement bas par rapport à l'habitude, hein, on est en dessous de 50% de taux de participation, et parce que dans un certain nombre de villes, l'extrême droite a pris la place d'autres candidats. C'est-à-dire que les gens qui tiennent le discours en disant « on est chez nous, et on prendra toute la terre des Palestiniens. Ils sont en train de prendre de plus en plus de place dans le pays. Ils sont déjà dans le gouvernement Netanyahou et ils sont en train de faire glisser. Netanyahou va bientôt paraître comme une espèce de colombe innocente. C'est-à-dire que c'est les brutes qui sont en train de s'acheminer vers la prise de pouvoir totale en Israël. Ils y arriveront ou ils n'y arriveront pas, mais ils sont déterminés. C'est ça qu'il faut savoir, ils sont déterminés. Ils sont pleins dans leur tête de ce discours en disant « il faut tous qu'ils s'en aillent hein, », qu'il y a un vrai, vrai danger. Alors ça s'est concrétisé encore il y a très, très peu de temps. Je ne sais pas si ce n'est pas hier, parce qu'il est arrivé. Il est arrivé donc des gens représentant, appartenant à ce courant donc sionisme intégral et acharné, qui sont rentrés à Gaza aussi, mais quelques dizaines de personnes, et qui sont rentrés, qui ont fait une manifestation de rue dans Gaza pour dire « on est chez nous, vous allez partir ». Et derrière, qui n'ont pas bougé dans l'occurrence, il y avait des soldats avec la mitraillette au poing qui les protégeaient dans leur activité propagandiste. Voilà, donc on a affaire à un niveau, enfin des rapports de... Les faucons, j'allais dire, les faucons sionistes sont dans un état de déchaînement extrêmement avancé, au point que je ne pense plus que Netanyahou soit en capacité de les arrêter. C'est ce qui explique d'ailleurs le raidissement de la position de Netanyahou par rapport à Biden, qui consiste à dire, oh lui il veut me freiner parce qu'il ne veut pas perdre les élections et tout, mais moi je m'en fous. Les élections aux États-Unis, je m'en fous, je trouverai toujours à me défendre. On en est là de la position des deux camps. Pour Biden, c'est un peu délicat quand même. C'est un peu délicat parce qu'en même temps, s'il veut avoir une partie de l'électorat, disons, pour faire simple, un peu progressiste aux États-Unis, il est obligé de demander d'arrêter le massacre. Alors il a fait une espèce de geste ambigu, c'est-à-dire qu'à défaut de laisser passer les convois humanitaires par terre du nord ou du sud, peu importe, il a fait parachuter des vivres.
Pourquoi parachuter alors qu'il allait...
Mais voilà, non, parce qu'il n'ose pas, il ne veut pas passer par Israël, il ne veut pas fâcher les Égyptiens qui ne veulent pas non plus, bon, et donc il parachute. Alors la France aussi, parce que Macron est toujours à l'affût d'une copie même de mauvaise qualité et un modèle réduit, Macron aussi a fait parachuter de la nourriture depuis le territoire jordanien avec un avion aux couleurs de l'armée française, c'est très joli. Bon, on a fait la même chose, hein, mais enfin, c'est très très facile. Il suffit de regarder le scénario qui s'écrit à Washington et on sait que dans la journée, l'Élysée va copier. Bon. Mais ça n'avance pas à grand chose. On a vu des photos, d'ailleurs, une partie de ces parachutistes sont arrivés dans l'eau. C'est pas à l'échelle, quoi, c'est tout. Ouais. Mais c'est une façon. Alors, c'est triste à dire. Ça montre l'extrême gêne de toute cette direction occidentale qui dit mais mon meilleur élève dans cette région-là du monde c'est Israël, j'ai tout fait pour eux, etc. Et là, ils en font un peu trop, c'est en train de mal se terminer, l'opinion mondiale est retournée contre eux, on n'est plus pris au sérieux et donc ils font des gestes comme ça un peu désespérés. Mais ça a des incidences, y compris aux États-Unis. Il faut savoir que dans un certain nombre de primaires, il y a des candidats démocrates primaires qui sont contre le fait qu'on laisse faire, que Biden laisse faire, et qui ont des voix. Et il y aura probablement, à la période où il y aura le rassemblement, disons, des démocrates qui va décider définitivement de la candidature de Biden, il y aura des gens qui vont dire « Nous, on ne votera Biden que si, effectivement, nous, on est démocrates, on ne votera Biden que si vous arrêtez Israël dans ses œuvres. » Donc, on a aussi des cassures dans l'opinion publique des États-Unis, y compris dans l'électorat démocrate.
Et beaucoup de manifestations aux États-Unis en faveur de la Palestine.
Voilà, sans commune mesure avec ce que nous vivons chez nous. Voilà en gros ce qu'on peut dire sur cette situation en Palestine. Donc on attend quand même que la Cour internationale de justice se remette au travail sur le bilan du mois de non-génocide, entre guillemets, du mois de génocide, avec donc le millier de morts qui est connu, tout ce qu'on sait maintenant plus précisément, y compris avec les témoignages de médecins qui arrivent à aller, d'infirmières, etc. Bon, il n'y a plus guerre de doute, c'est-à-dire que la comédie de Biden et la comédie de Macron sont obligées du fait qu'ils se rendent bien compte qu'on ne peut pas dire un discours « mais tout va bien, on les traite gentiment, les Palestiniens, il leur arrive rien ». C'est impossible, c'est impraticable. Et là, on est dans une situation tout à fait nouvelle, c'est-à-dire que la médiatisation actuelle, on parle beaucoup des réseaux sociaux avec les inquiétudes que chacun peut nourrir, etc. La médiatisation de la guerre de Gaza fait qu'à aucun moment, désormais, il ne sera plus possible de tenir des trop, trop gros mensonges. ce qui a été vrai pendant une grosse période, partie de la période coloniale. On pouvait mentir impunément.
Pendant 75 ans.
Oui, peut-être, même avant, hein, la conquête de l'Algérie, où je pense au monument, vous savez, il y a à Marseille un monument qu'on appelle le monument aux mobiles. Hein, le monument aux mobiles, c'est un monument pour, à propos des soldats qui sont morts pour réprimer la révolte arabe de 1872 ou 13. Bon. Il est mort des milliers de soldats français, mais il est mort beaucoup, beaucoup plus d'Arabes. Il n'y a pas de monument non plus pour les morts de Sétif en 45, enfin tout ça. Bon, donc le regard sur l'horreur coloniale était très difficile. Maintenant, il est évident, il passe partout, et donc c'est une faiblesse, un affaiblissement du camp colonial, et il faut qu'on profite, nous, de cette occasion. Alors, en prenant le soin de vérifier les informations, de recouper, de ne pas citer n'importe quoi, mais on a énormément de possibilités aujourd'hui de dire, là, vous mentez, alors arrêtez de mentir.
Oui, parce que, regardez, les Américains, ils ont commis un génocide envers les Indiens.
Ouais.
Les Britanniques, ils ont commis des génocides. La France a commis des génocides aussi, en Algérie et en Afrique.
Ben oui.
Et tous ces gens qui essayent d'aider par des mensonges sur la bataille de Gaza, ils ont commis des... Comment voulez-vous qu'ils soient du côté des Gazaouis? C'est pas possible. Alors ils se mettent... parce qu'ils ont commis des génocides comme...
Tout à fait.
Comme Israël.
Voilà. Alors avant de passer à la suite, on va passer un petit peu de musique là, d'un rappeur burkinabé qui va nous faire une transition sur l'Afrique. Tu l'as ?
C'est président incompétent, c'est
oui,
ça ?
Oui, c'est ça, oui. Oui, tout à fait. Voilà, alors, des présidents incompétents, il y en a, évidemment. Donc, je ne visais personne, vous avez bien compris. Là, il s'agissait d'un rappeur burkinabé. Ce qui m'amène à vous parler un peu de ce qui se passe au Sahel et ce qui se passe dans les rapports entre les nouveaux pays libérés de la colonisation française. Donc, je veux parler du Niger, du Burkina Faso et du Mali et des rapports avec leurs anciens amis, si j'ose dire, la CEDEAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Ouais. Parce que vous savez donc que les trois pays précités, les trois pays du Sahel, ont d'une part décidé chacun de quitter la CEDEAO et puis de créer une alliance entre eux qui s'appelle l'AES, Alliance économique du Sahel. Et donc, ils constituent aujourd'hui plus de la moitié du territoire de l'ex-CEDEAO, un peu moins en termes de richesse, mais quand même ça fait 60 millions d'habitants à peu près, c'est pas rien, un peu moins en termes de richesse, mais il sort un poids. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors la CEDEAO, d'abord elle avait été vouée par un certain Emmanuel Macron à venir tirer dans le tas. C'était ça la position habituelle, disant « Ah, ils ont rompu les alliances avec la France et tout, on va leur donner un coup d'arrêt ». On était quasiment dans la situation de Biden finançant les Kenyans, quoi. C'était à peu près ça. Hein. On envoie les Noirs se battre entre eux, hein, et puis nous, on tire les marrons du feu. Alors ça n'a pas marché. La force militaire, d'ailleurs, de la CEDEAO était peut-être pas très, très opérationnelle et pas très brillante. Enfin, en tout cas, tous ces chefs d'État qui restaient dans la CEDEAO ont eu peur de passer à l'acte. C'est-à-dire, impopularité évidente, hostilité avec des pays très voisins avec lesquels il y avait quand même des rapports et tout. Et on en est arrivé à des mesures classiques de sanctions, fermeture des frontières, boycott, etc. Boycott, par exemple, le Niger recevait la quasi-totalité de son électricité du Nigeria, qui a coupé le courant. Merci, merci les voisins, merci les amis. Bon, et tout était comme ça. Alors, comme ça n'a pas fait d'effet politique suffisant sur les trois dissidents, j'allais dire, le Nigeria et la CEDEAO, ce qu'il en reste, a revu sa copie ces derniers jours. Vous savez, ils se sont dit, bon, si on se fâche définitivement, ben, ils vont s'en aller et puis ils vont faire leurs affaires avec beaucoup d'autres, les Russes, les Chinois, les Turcs, que sais-je, les Iraniens. Donc, il faut quand même essayer de réouvrir un peu la porte. Et donc, ça a été à l'initiative du président du Nigeria, qui est le poids lourd, hein, il y a presque 200 millions d'habitants au Nigeria, il y a des richesses, etc. Bon, donc, de dire, on va essayer de réduire un peu le régime des sanctions très brutales qu'on a mis en place au moment du départ de ces trois-là. Alors, l'effet sur les trois, il est très limité, puisqu'en fait, ils disent, on est parti, on ne reviendra pas, c'est tout, on ne vous connaît pas. Hein. On sait ce que vous vouliez nous faire, vous ne l'avez pas fait, tant mieux, vous avez peur de nous. Mais en même temps, on voit bien qu'ils se préparent là, et c'est là-dessus que je voulais m'arrêter, ils se préparent là une riposte d'un autre type. C'est-à-dire, la riposte militaire s'étant avérée impraticable, il va falloir trouver un autre moyen de faire tomber ces trois pays et ces trois gouvernements. Alors ça, c'est compliqué. C'est compliqué parce que déjà, la politique militaire qu'ont appliquée ces trois États, c'est de limiter à très très peu de choses le terrorisme islamique, comme par hasard. Et pourquoi ils l'ont fait? Parce qu'ils savaient bien, et ça s'est confirmé dans les faits, que dès l'instant où ils s'occupaient eux-mêmes de la défense de leur territoire et de la lutte contre le terrorisme, c'était beaucoup plus efficace que quand l'armée française, censée le faire, ne le faisait pas, ou le faisait mal.
Surtout au Mali.
Voilà. Et en plus... Oui, et en plus, ils ont pu accumuler des preuves en disant, en fait, les terroristes, quelquefois, ils se fournissaient en armement qu'on leur donnait gentiment en passant par la Libye et le Tchad, etc. Ils n'étaient pas du tout autonomes, ils étaient à la merci d'intérêts ou dépendants d'intérêts étrangers qui n'étaient pas ceux du pays. Bon. Tout ça, c'est connu, c'est compris. Et donc, effectivement, ce qu'il faut craindre, c'est que, ce bilan étant fait, c'est plus possible de sortir les milices islamiques, ils vont peut-être encore faire encore ici des dégâts, c'est plus possible de dire on ne vous connaît pas et on va vous faire mal. Et donc il faut trouver petit à petit les moyens de compliquer la vie de ces trois pays indépendants. Alors ça va se faire avec d'autres alliés, je pense au Tchad en particulier, qui va servir à ça. Il peut venir du Tchad des diverses milices, il peut venir... Il y a des possibilités de trouver des combattants contre ces trois régimes. Il y a des possibilités encore économiques de leur compliquer la vie au point de vue des réseaux bancaires, au point de vue des transferts d'argent, etc. Enfin, on va passer à un autre type de lutte, c'est-à-dire l'affrontement militaire est considéré comme impraticable. Et les trois pays sont déterminés. Par contre, il a été décidé, et c'est ça que je veux dire pour synthétiser mon propos, il a été décidé de les faire tomber tous les trois. Ça prendrait le temps, je mets le conditionnel parce que je le souhaite, ça prendrait le temps qu'il faudrait, mais c'est clairement ce qui est en route. Et ça veut dire qu'on est passé, alors tout ça c'est la France qui est un gros joueur, c'est elle qui a le plus perdu dans l'opération. Donc ça prendrait un caractère de politique, disons, à l'américaine, c'est-à-dire je ne fais rien en direct, je fais agir par-dessous, mais j'ai décidé de faire tomber trois gouvernements, hein, c'est le regime change classique à l'américaine, hein, et je suis sur cette pente-là. C'est-à-dire, je ne me mets plus en avant, c'est pas Emmanuel Macron et ses ministres de l'Outre-mer qui vont dire ce qu'il faut faire et qui font la comédie sur les tréteaux en Afrique. Non, ça c'est terminé, c'est passé, c'est impraticable. Maintenant, on va, j'allais dire, c'est un peu simple, on va dans le dur. C'est-à-dire une volonté de faire tomber trois gouvernements par tous les moyens non visibles.
Et c'est pour ça que l'on voit en ce moment l'armée américaine prendre des positionnements stratégiques un peu partout en Afrique, tout et notamment fait. Là où les Français ne sont plus...
Exactement.
Ah, d'accord.
Donc, il participe à la même opération, c'est-à-dire le colonialisme français dans les habits qu'il avait revêtus n'est plus présentable. Donc il faut changer de tenue, donc travailler en souterrain, en opération.
Mais de l'autre côté, ils ont des amis.
Effectivement, le jeu qui se joue là dépasse effectivement la République française coloniale. Il se joue, effectivement, on va vous dire, ah ben de toute façon, s'ils tiennent, c'est parce qu'ils ont reçu des armes et des drones iraniens, turcs. Oui, etc.
Et donc, russes, chinois.
Et russes et chinois. Donc on a bien à cet endroit-là un affrontement qui est l'affrontement global qui est en cours entre le sud global et les deux porteurs de ces intérêts qui sont la Russie et la Chine et le camp occidental. Mais je voulais simplement insister sur le fait que le retournement du Nigeria, disant non mais on n'est pas si fâchés, on va pouvoir retravailler ensemble et tout, est simplement une annonce de la nouvelle forme qu'va prendre le jeu. C'est le même jeu qui continue sous d'autres habits et ce n'est plus Macron qui sera le metteur en scène de cette comédie-là. Mais la comédie va durer parce que les intérêts en jeu sont conséquents et qu'en plus on a là à faire un champ de bataille très très important entre les nouvelles puissance et les anciennes puissances. C'est tout ça qu'il faut...
Ouais. Sauf si les autres pays d'Afrique de l'Ouest, etc., décident venir rejoindre l'Alliance des États du Sahel.
Voilà, tout à fait. Alors, c'est ça la question. Alors, il y a la question du Tchad, par exemple, est pendante. Bon, le petit Déby qui a pris le pouvoir dans des conditions discutables est en train de se représenter, puisqu'il annonce les présidentielles.
Son opposant a été assassiné, là, ces jours-ci.
Voilà, donc on est encore resté dans le cadre de la France-Afrique, tout à fait classique. On l'a mis en place et il veut rester à sa place et tout. Bon, d'autres peuvent bouger. Le problème, c'est que l'Union africaine n'a pas de capacité politique autonome propre et que donc, ça conduit à des rassemblements où chacun fait de bonnes paroles. Mais en fait, quand on a un Kenya d'un côté, une Afrique du Sud de l'autre, on voit bien que les articulations sont pas commodes. Quand on a le Rwanda par rapport à la République démocratique du Congo, ça va pas tout seul non plus, etc., etc. Donc en fait, il ne faut plus considérer, c'est l'image panafricaniste de rêve, j'allais dire, qu'on a affaire à un bloc d'1,4 milliard de personnes qui sont tous d'accord sur tout. C'est plus du tout ça. Les divisions coloniales ont été telles, et on va emporter tellement longtemps les stigmates qu'il ne faut pas rêver à ça. Il faut trouver des ententes ponctuelles, solides, fermes, avec des gens prêts à se battre pour ne pas se laisser marcher sur les pieds. C'est ça qui est en cours. Mais on aura encore des moments où on souffrira à le raconter et à le voir. Parce que ça ne peut pas se régler en un seul jour. La colonisation de l'Afrique, elle a commencé en gros. Enfin, la France a un peu anticipé en 1830 avec l'Algérie, mais c'est dans les années 1870-80 que ça fait pas très très longtemps, ça fait pas 200 ans. Et donc, défaire tout ça, c'est un petit peu compliqué. Surtout sur un terrain où la colonisation a découpé le territoire africain en 54 morceaux. Qui fait qu'il s'est créé des petits pouvoirs où chacun veut garder son petit morceau, ne pas se mélanger avec le voisin, etc. Bon. Mais on voit bien qu'il y a des gens qui font le geste, donc il faut saluer encore plus maintenant qu'on voit les réactions de l'Occident et de la France et des États-Unis, saluer le geste des trois pays qui ont tenté le risque et qui sont sortis de cette mécanique. Ça c'est tout à fait important. Voilà, et je voulais finir, voilà, j'en ai fini avec l'Afrique, on en reparlera nécessairement, pour vous parler de la Syrie. Alors, c'est pas simplement pour faire plaisir à Habib, mais ça mérite. Non, simplement, ça méritait que ça fût salué. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Alors, on va commencer dans le sens historique, c'est-à-dire qu'il y a eu un représentant de l'ONU, de la Syrie à l'ONU, dont le nom m'échappe, je ne sais pas où il est, ça n'a pas beaucoup d'importance finalement, qui a été nommé par acclamation, sans vote, acclamation d'une salle debout, à la tête du comité de la décolonisation de l'ONU. Alors imaginez ce que ça veut dire. Donc une salle entière se lève et dit « Oui, c'est toi le candidat du moment pour la décolonisation ». Ça s'est passé au début du mois de février, donc en plein pendant l'opération de Gaza. Donc c'est particulièrement révélateur qu'une assemblée donc, de représentants d'État, on est à New York, ça se passe, hein, je ne sais pas, ou c'était peut-être à Genève, ça n'a pas beaucoup d'importance,
c'est à Genève,
je crois que le commissariat des droits de l'homme est à Genève. Ouais. Et donc une assemblée se lève pour dire « c'est lui l'homme de la situation, le représentant de la Syrie à l'ONU pour la décolonisation ». Alors, on sait, je les rappelle, mais on sait les positions extrêmement claires dès l'origine de la Syrie par rapport à l'invasion de la Palestine par les sionistes. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Et c'est, à mon avis, pour ça qu'il a été élu si triomphalement. Alors, bien sûr, ça a beaucoup, beaucoup fait de peine ici ou là, surtout ici. Surtout ici. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh bien, on fait voir ce qui s'est passé. Eh bien, on réunit le Parlement européen et on lui fait voter une déclaration sanglante contre la Syrie. Ouais. Hein, parce qu'il s'agissait bien de ça. Il s'agissait de manifester contre ce vote donc, du représentant de la Syrie à la tête de la Commission des droits de l'homme. Et alors, le Parlement européen, dont c'est une tâche favorite, s'est fendu d'une double déclaration. Il a fait 3-4 pages où la Syrie est accusée de tous les maux. Le dictateur Bachar el-Assad a fait tout le discours qu'on connaît.
Mais tué son peuple.
Oui, tout, voilà. Et donc tout ça a été remis en musique. Et ça a donné lieu, voilà, ça a donné lieu à une mise au point que je voulais vous lire quelque part.
Est-ce que c'est oui. Bassam al-Sabah
Oui, c'est ça, c'est lui. Bassam, voilà. Et donc, ce que voyant, donc la Syrie voit arriver ça, elle était très contente d'avoir été nommée donc, à la tête de la commission de la décolonisation. Elle aurait d'ailleurs pu intervenir, et j'espère qu'il le fera aussi sur la Nouvelle-Calédonie, histoire de renvoyer l'ascenseur, ben, ça sera très bien. Et puis, après ce vote de cette résolution, qui n'est pas surprenante, on dirait, j'y ai pensé en la relisant, on aurait dit du Fabius à l'état brut. Hein. Ils avaient tout repris du discours de Fabius, et Al-Nosra fait du bon boulot, etc. Tout y était. Hein. Donc le Parlement européen, il a ça. Alors au moment où vous voterez, où vous envisagerez de voter au mois de juin pour le Parlement européen, sachez bien qu'une des grosses activités du Parlement européen consiste à faire du tam-tam autour des intérêts de l'Occident, alors qu'il n'a aucun pouvoir concret. Mais pour faire ce genre d'action propagandiste, pour défendre les intérêts du monde blanc colonisateur, il est très très adapté. Et apparemment, les élus, qui sont relativement bien payés pour faire ce travail-là, s'en satisfont dans leur majorité. Bon. Après, vous voterez comme vous aurez envie de voter, on va voir. Mais c'est important à rappeler parce que leur pouvoir est très très faible. Leur pouvoir ne sera pas augmenté, mais matériellement, les finances sont importantes. Ils touchent de gros salaires. Ils ont des assistants parlementaires, donc du personnel qui travaille pour eux. Avoir beaucoup d'élus, comme certains partis en auront, évidemment, après les élections du mois de juin, c'est au moins avoir une capacité financière remarquable. Et ça peut donner des ailes à certains partis politiques français. Vous voyez à peu près de qui je veux parler. Bien. Et donc la Syrie donc, constate, prend acte, disons, lit cette déclaration du Parlement européen et donc publie un communiqué qui est du 4 mars, vous voyez que c'est tout récent. Et voilà ce qu'il dit. Je vous le lis et puis on achèvera l'émission là-dessus. Le ministère syrien des Affaires étrangères a estimé que cette résolution reflétait la situation politique misérable de l'Europe qui combine une contradiction immorale et une déconnexion de la réalité. Alors je m'arrête sur les deux critiques. Contradiction immorale, ça veut dire, quand on passe son temps à avoir la main droite qui est toute propre et la main gauche qui a des kalachnikovs, bon, on est dans une contradiction immorale, élémentaire. Bon, il n'y a pas que la France, les États-Unis, etc. Bon. Et une déconnexion de la réalité, ben vous ne voulez pas savoir ce qui se passe en Syrie, vous ne voulez pas savoir de quoi nous avons souffert depuis 2011 à cause de vous. Vous êtes déconnecté de la réalité. Et donc ça se poursuit comme ça. Le ministère syrien des Affaires étrangères a critiqué aujourd'hui les recommandations contenues dans la récente résolution. Et il dit « La République arabe syrienne a suivi ces discussions et considère les recommandations émises par le Parlement européen comme une ingérence flagrante et honteuse dans les affaires intérieures du pays. » Le ministre a ajouté que cette résolution reflète la situation politique misérable de l'Europe qui combine la contradiction morale et la déconnexion de la réalité. Damas affirme sa ferme condamnation et son rejet absolu de toute ingérence dans ses affaires intérieures par quelque parti que ce soit, sous quelque prétexte que ce soit. Le ministère a remercié tous ceux qui ont voté contre cette décision, il y en a une, et a fermement condamné le vote en faveur de cette misérable résolution, pleine d'expressions et d'idées racistes rejetées par le monde civilisé et par les Syriens eux-mêmes, fiers que leur pays ait été et continue d'être le berceau des civilisations et le lieu de rencontre des religions, races et nationalités. Alors c'est tout à fait clair, et ça mérite d'être redit, parce qu'on ne le dit pas assez souvent. Il faut savoir que la seule référence à la religion musulmane dans la constitution syrienne, c'est le fait que le président de la République doit être musulman. Tout le reste est libre, donc on a un État laïque avec un côté, une reconnaissance de facto de la majorité musulmane, mais pas plus. Et dans les musulmans, il y a des chiites, il y a des druzes, il y a des sunnites, il y a de tout. Et il faut savoir qu'il est assez fréquent que l'église orthodoxe et la mosquée d'à côté s'échangent des services, et que ce soit l'un qui aille prêcher chez l'autre, etc. C'est des scènes qu'on n'imagine pas dans notre cartélisation religieuse en France. Mais ça, on ne veut évidemment pas le savoir, mais ça fait partie de la Syrie. Et pourquoi ça fait partie de la Syrie? Parce que la Syrie, elle a de l'histoire, la Syrie de l'histoire. Hein, souvenez-vous de Paul de Tarse, vous savez, le fameux saint Paul. Bon, il n'était pas tout à fait né en Syrie, il était né un peu plus à l'ouest, mais c'est là qu'il a vécu. La Bible, elle a été écrite en araméen, pas en hébreu, etc. Bon, donc la Syrie, elle a 2500 ans d'avance sur nous. Nous, encore, on n'est pas des plus nouveaux, mais c'est ça qu'il faut voir. Et donc, elle a des habitudes, et puis elle a eu l'habitude, elle a vu passer les croisés, etc., mais elle a réussi à vivre en intelligence avec tout le monde. Et là, ce qui rend la situation compliquée pour le gouvernement syrien, c'est qu'il est envahi par des troupes turques, par des groupements kurdes, et par des forces américaines qui sont sur place, pour faire ce que Donald Trump a dit lui-même du temps où il était président. Ah ben là, il y a la Continental Petroleum qui a des intérêts, donc j'envoie des soldats pour défendre les intérêts d'une compagnie pétrolière américaine. Alors peu importe que ce soit sur le sol syrien, que ce soit du vol, il ne veut pas le savoir. Il y a des intérêts américains, je défends ma société, j'envoie mes soldats. C'est ça la situation syrienne, c'est pas autre chose. Donc qu'on arrête, et je suis content que donc, la Syrie soit à la tête du comité de décolonisation. C'est une lourde tâche, mais la France pourrait en souffrir. Alors la France, les intérêts impérialistes et coloniaux français pourraient en souffrir. Je pense que les intérêts des peuples colonisés, et même les intérêts de l'intelligence française en serait bien, bien améliorée. Car tout ce que nous vivons à travers les positions du Rassemblement national, etc., etc., montre que la compréhension, l'impact du colonialisme sur la tête du français moyen est encore considérable. Et quand en plus il est entretenu par un Darmanin à longueur de temps, comme il a été entretenu par d'autres, effectivement, ça ne sort pas du cerveau instantanément. Donc ça, c'est ça la tâche à laquelle on s'assigne très modestement. On remercie Radio Galère de nous permettre de le faire. Et c'est une tâche qui doit décoloniser nos têtes. Ça fait partie d'un travail de santé mentale auquel nous sommes conviés, auquel je vous convie avec grand plaisir. Voilà. Merci Roselyne, merci Clélie de ton assistance, et merci Habib. Voilà, on se retrouve. Alors oui, j'ai une dernière annonce, j'ai une minute. Alors, la semaine prochaine, vous savez qu'on a notre soirée thématique, donc mercredi 13, et je vais la consacrer à la mer Rouge. Non pas pour parler de la mer et des fonds sous-marins, mais pour parler de ce qui se passe autour de la mer Rouge, qui est l'endroit probablement le plus bouillant de la planète exactement. À l'heure actuelle.
Babel Mendes.
Voilà. Merci.
Merci à Roselyne et Ellie.
À Clélie. Merci à vous tous. Ah, oui.